Chapitre 35. Tout ce que Carla voulait, c'était qu'ils lui disent qu'elle se trompait. Ce vendredi-là, chez Théo, 2 jours après avoir lu le carnet de Daniel, elle s'endormit tôt, ivre-morte, pour se réveiller en sursaut quelques heures plus tard, avec la migraine et la bouche pâteuse. Les scènes que Daniel avait dessinées tournaient en boucle sur l'écran décharné de son esprit. À côté d'elle, Théo ronflait doucement. Elle se leva. Inutile de rester là, elle savait qu'elle n'allait pas se rendormir. Elle s'habilla rapidement, ramassa son petit sac de voyage et descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Debout devant l'évier, elle but un verre d'eau, puis un second. La veille, elle avait englouti plus d'une bouteille de vin. C'était plus d'alcool qu'elle n'en avait consommé en une fois depuis des années. Elle ressentait une douleur intense derrière les yeux. Dans les toilettes du rez-de-chaussée, elle trouva une boîte de paracétamol et avala 3 comprimés. De retour dans la cuisine, elle se mit à chercher un papier et un stylo pour laisser un mot à Théo. « Impossible de dormir, je suis rentrée. » Quelque chose comme ça. Il serait blessé, il ne comprendrait pas, mais pour le moment, elle n'avait pas l'espace mental pour s'occuper de ses sentiments. Elle n'avait plus d'espace mental pour rien. Daniel prenait toute la place. Elle ne trouva pas de stylo. Peu importait, elle l'appellerait plus tard. Dans quelque temps. Il faudrait bien qu'ils discutent à un moment. Elle devrait inventer une excuse pour expliquer la façon dont elle s'était comportée ces dernières semaines, ce qu'elle ressentait. « Tu as l'air en état de choc, Carla. » avait commenté Théo ce soir-là, peu après qu'elle était arrivée pour leur dîner hebdomadaire. « Est-ce que tu as des problèmes de sommeil ?» Quand elle avait acquiescé, il avait voulu savoir depuis quand, s'il y avait eu un déclencheur, mais elle ne voulait pas en parler. « Peut-être après un verre », avait-elle dit. Elle avait bu 2 gin toniques avant qu'il s'attaque au vin. Elle n'avait rien mangé. Pas étonnant qu'elle se sente aussi mal. Non, pas étonnant. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut du givre sur la pelouse. Il allait faire froid dehors. Dans l'entrée, elle enfila ses gants et emprunta une écharpe de Théo qu'elle enroula autour de son cou. Alors qu'elle repassait par la cuisine, elle remarqua le couteau dont son ex-mari s'était servi pour couper des tranches de citron à mettre dans les gin toniques, abandonné sur la planche à découper. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il lui dise qu'elle se trompait. Elle sortit par la porte de la cuisine et s'emmitoufla un peu mieux dans l'écharpe. Au fond du jardin, elle déverrouilla le portail, s'engagea sur le chemin de halage, désert, et prit à gauche en direction de sa maison. Une légère brume argentée s'élevait du canal dans le clair de lune. Les lumières des péniches étaient toutes éteintes. Il devait être 4h30, peut-être 5h. En tout cas, il faisait encore nuit. Carla marchait lentement, les mains dans les poches et le nez enfoui dans l'écharpe. Elle fit 100 mètres, 200. Elle passa devant les marches qu'elle montait d'habitude pour rentrer chez elle et continua son chemin. Dans le froid, son esprit s'éclaircissait peu à peu. Elle devait aller le voir. Il lui dirait qu'elle se trompait, il lui dirait « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, c'est juste… » Juste quoi? Qu'est-ce que cela pouvait être? Un fantasme? Un cauchemar? Un jour, au cours des années précédentes, il s'était assis pour dessiner ses images, de lui-même, d'elle, de son jeune cousin. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, qu'il les ait tous dessinés comme ça? Tout ce qu'elle voulait, c'était une explication. Tandis qu'elle arrivait en vue de la péniche, elle eut la surprise d'entendre des éclats de voix. Au lieu de s'arrêter et d'aller toquer au carreau, comme elle l'avait prévu, elle pressa le pas et se dirigea vers les marches du pont. Une fois postée là-haut, elle observa le bateau, son souffle rapide et tiède montant en volute devant son visage. Quelques instants plus tard, elle vit Daniel sortir sur le pont arrière, seulement vêtu d'un jean. Il enfila un sweatshirt sur son torse nu et descendit sur le chemin de halage. On aurait dit qu'il parlait, mais le vent attrapait ses paroles et les envoyait vers l'eau du canal. Carla le regarda incliner la tête à gauche et à droite, les mains appuyées sur le cou, puis avancer vers le pont avant de s'arrêter pour allumer une cigarette. Elle retint son souffle. Elle aurait tant voulu qu'il lève les yeux, mais après avoir tiré quelques bouffées, il jeta sa cigarette d'une piche nette, releva sa capuche sur sa tête et s'éloigna en passant sous le pont sur lequel elle se tenait. Peu après, une fille émergea à son tour de la cabine. Une jeune fille, probablement trop jeune pour Daniel d'ailleurs, a l'air échevelée. Elle tournait le dos à Carla et resta plantée là en regardant de tous côtés, comme si elle ne savait pas par où aller. Elle jeta un bref regard en direction du pont. Enfin, elle cracha par terre et partit d'une démarche traînante dans la direction opposée à celle de Daniel. Elle riait. Le jour commençait à se lever. Les premiers coureurs de la matinée, les plus déterminés, avaient déjà lassé leurs chaussures et arrivaient près du canal. Carla en avait vu passer un ou deux sous le pont. Bientôt, il y en aurait davantage. Il faisait froid et Carla n'avait aucune envie de patienter. Elle voulait rentrer à la maison, pas chez elle, mais chez Théo, retrouver le lit chaud, le café, le réconfort. Cette confrontation pourrait avoir lieu un autre jour. À l'instant exact où cette idée s'imposait à elle, Carla vit Daniel émerger de sous le pont, la tête juste en dessous d'elle. Il revenait vers la péniche, le pas tranquille, une nouvelle cigarette délicatement coincée entre le majeur et l'annulaire. Qu'il ressemblait à sa mère dans ses mouvements. Quand il grimpa sur le pont arrière, Carla eut la certitude qu'il allait lever les yeux vers elle et la voir. Au lieu de cela, il se pencha et disparut à l'intérieur de la cabine. Il n'y avait personne sur le chemin de halage, ni d'un côté, ni de l'autre. Carla redescendit les marches 4 à 4, courut jusqu'au bateau, monta sur le pont et entra dans la cabine. Ce trajet avait dû lui prendre à peine 30 secondes, et désormais, elle était seule avec lui. Dos à elle, il avait commencé à retirer son sweatshirt, mais en l'entendant arriver, il se retourna, inquiet. Il laissa tomber le sweat à ses pieds. L'espace d'un instant, son visage n'exprima rien du tout, puis il sourit. « Coucou !» dit-il. « Quelle surprise !» Il ouvrit les bras et s'avança pour l'étreindre. À cet instant, Carla avait la main enfoncée dans son sac, les doigts refermés sur le manche du couteau. En un mouvement, elle le sortit et le brandit vers lui. Elle y mit tout son poids et toute sa force. Elle vit le sourire de Daniel vaciller. Il y avait de la musique à la radio, pas très forte, mais suffisamment pour couvrir le bruit qu'il fit. Pas un cri, pas un hurlement, une sorte de sanglot étouffé. Elle retira le couteau et le poignarda encore, puis encore, dans le cou, cette fois. Elle passa la lame en travers de sa gorge pour le faire taire. Elle lui demanda à plusieurs reprises s'il savait pourquoi elle faisait cela, mais il ne pouvait pas lui répondre. Carla ne put pas l'entendre lui dire qu'elle se trompait. Après, elle ferma et verrouilla la porte de la cabine, se déshabilla, se doucha, se lava les cheveux et enfila les vêtements qu'elle avait dans son petit sac de voyage. Elle fourra ses habits couverts de sang dans un sac plastique qu'elle trouva sur l'évier, enroula le couteau dans l'écharpe de Théo et rangea le tout dans son sac. Enfin, elle rouvrit la porte et partit sans la refermer. Elle rejoignit le chemin de halage et se mit à marcher d'un pas alerte en direction de la maison de Théo. Une femme blanche entre deux âges qui faisait sa promenade matinale. Rien de particulièrement remarquable. Elle franchit le portail du jardin, entra par la cuisine et y laissa son sac. Sans bruit, elle remonta les marches et se glissa dans la chambre où Théo dormait encore. Dans la salle de bain attenante, elle retira ses vêtements propres et reprit une douche. Elle resta un long moment sous le jet d'eau chaude, épuisée, les mains douloureuses, les mâchoires serrées, les muscles des jambes engourdis, comme si elle venait de courir un marathon. Si tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il lui dise qu'elle se trompait, pourquoi ne lui avait-elle pas laissé l'opportunité de le faire? Pourquoi avait-elle emporté le couteau? Pourquoi était-elle revenue chez Théo, après coup? N'était-ce pas pour se donner au moins la possibilité d'un alibi? Elle pouvait se raconter autant de mensonges qu'elle le voulait, mais nuit après nuit, quand elle se retrouvait comme en ce moment, incapable de dormir, hantée par ce qu'elle avait fait, la vérité était là. Dès l'instant où elle avait vu ce dessin de Daniel assis sur le balcon, le sourire aux lèvres alors qu'il observait son enfant plus bas. Elle avait su très exactement ce qu'elle allait lui faire. Le reste n'était que mensonge.